Vivre, analyser, décrypter l'actualité, toute l'actualité. Le 17-19, le mag, du dimanche au mercredi, de 17h à 19h sur ALG chaîne 3. 17-19, le mag, 2 heures de direct présenté par Mounir Larraj et réalisé par Ali Laouissi.
Excellente fin d'après-midi à vous tous et toutes. Mesdames, messieurs, merci de nous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre magazine. Le 17-19, le mag à 17h06. Très heureux de vous retrouver et de vous servir jusqu'à 19h en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et au sommaire de ce 17-19 le mag de ce mardi 22 avril, si je me trompe pas, 22 avril 2025, nous allons parler à l'occasion de la journée mondiale de la Terre avec Hamid Belkacem dans la chronique Indice Vert d'une région très chère à nos cœurs. Il s'agit là de la bande de Gaza en Palestine occupée. C'est le thème choisi donc par Hamid Belkacem aujourd'hui dans l'Indice Vert. Et nous allons parler dans l'instant santé avec Hassan Chemesh, notamment des cancers ORL, et cela à l'occasion de la journée d'évaluation de la prise en charge des malades atteints de cancer en Algérie, organisée par le ministère de la Santé. Un jour, un correspondant depuis Chlef, ou Rima Rahmani, nous emmènera pour parler de la cochenille qui affecte la FIC de Barbarie. Et nous allons parler de tout le dispositif qui a été mis en place par la direction des services agricoles pour faire face à cette cochenille. Et retour sur un hommage de la diva de la chanson Telgi qui nous a quitté hier. Il s'agit là de Lalla Badi, à l'âge de 88 ans, avec Fateh Boumadi. Nous aurons des sonores de la regrettée, des sonores enregistrés il y a quelques temps à haut sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et également, nous irons du côté d'Osaka, où nous allons retrouver Selim Brahimi. Au pays du soleil levant se tient l'exposition universelle 2025 d'Osaka, où l'Algérie y prend part, avec un pavillon qui réunit patrimoine ancestral et nouvelles technologies. Aux environs de 17h30 sera l'invité du mag, monsieur Amine Boudefla, directeur de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen. Et en prévision du mois du patrimoine, nous allons parler de ce musée à ciel ouvert, entre autres musée à ciel ouvert, à savoir la wilaya de Tlemcen, ce qu'elle recèle autant que monument historique, touristique et aussi culturel. Et nous allons parler également du programme tracé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen en prévision du mois du patrimoine. Sans oublier toute l'équipe de des services sport de la chaîne 3 pour l'actualité, toute l'actualité sport de la 3. À la régie d'antenne, Mariam Dilali, à la console technique, Adeline Bug, et à la réalisation de votre 17-19 Le Mag. Jusqu'à 19h, allez là où ici. Merci pour votre fidélité à travers les ondes d'Alger Chaîne 3, et également à travers les www.radioalgerie.dz ou également l'application Algerine Radio. 17h09, le 17-19 Le Mag, let's go. Salam salam, bonjour ou salam salam la paix avec la belle voix qui a disparu de la scène artistique. Yassine Dahmam, salam salam.
Con pasión y con amor, pero falsas notas.
À 17h13 minutes, c'était la belle voix de Yacine Dehmen. Salam, salam dans le 17-19, le mag avec vous en direct jusqu'à 19h. Une spéciale dédicace à nos confrères journalistes Walid Yousfi et Marine Damis qui nous rendent visite dans les locaux de la chaîne 3 avec vous. Et à 17h13 minutes, place à l'indice vert chronique du développement durable avec Hamid Belrassem. Et je le disais, en ce 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre et Hamid Belrassem a choisi de parler d'un point ou d'une région chère à nos cœurs. Il s'agit là de la bande de Gaza. La bande de Gaza en Palestine n'a occupé Hamid Belrassem.
Il n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni vivres pour survivre à Gaza. Par contre, Gaza est généreusement alimentée en bombes. Pour cette journée mondiale de la Terre, voici le quotidien préparé spécialement pour Gaza. Au lever du jour, Israël offre des bombes de 500 kilos. Il y en a pour tous, sans distinction d'âge ou de sexe. À 13h, l'appel pour Salat al-Dhahr, fidèle à sa générosité acquise à Deir Yassine, Israël sert à chaque famille une demi-douzaine de bombes à fragmentation comme plat de résistance et quelques sous-munitions au tungstène pour le dessert. Alors que le soleil se couche, Israël casse sa tirelire et vide ses stocks de phosphore blanc pour un dîner en mémoire des rescapés de Gaza. La nuit tombée, pour célébrer la journée mondiale de la Terre, Israël compte offrir 5000 bombes incendiaires. C'est vrai qu'il fait froid à Gaza. Alors, un grand feu cible les campements de fortune pour réchauffer les Gazaouis et les inviter à quitter leur ville, à quitter leur terre. Sur un énième chemin de l'exil projeté sur la route d'une nouvelle Nakba, Israël leur offre un spectacle haut en couleur, rouge sang. C'est ainsi qu'Israël, généreusement aidé par la communauté internationale, fête la journée mondiale de la Terre au pays de l'olivier, symbole de paix. Un olivier calciné, mais ses racines résistent et s'enfoncent en profondeur dans la terre.
et s'enfonce en profondeur dans la terre, et c'est celui qui a donné vie au symbole de la paix, l'olivier, qui est catalogué de terroriste, Hamid, et celui qui arrache l'olivier est taxé de victime, c'est le monde à l'envers.
Les bâtiments, les habitations, les écoles et les hôpitaux de Gaza sont à l'envers. Sous l'effet des bombes, les toitures s'enfoncent et les fondations remontent à la surface de la terre. C'est normal, c'est la journée mondiale de la terre à Gaza. Et comme tous les autres jours de l'année, Gaza enterre ses enfants sur la terre que leurs parents ne veulent pas quitter. Gaza est devenu un immense cimetière à ciel ouvert. Que reste-t-il alors aux Palestiniens si ce n'est la résistance armée face à un occupant barbare?
Face à un occupant barbare, Hamid Belkacem, mais en droit international, la résistance armée face à une puissance occupante est un acte légitime.
Oui, le droit international autorise la résistance armée, sauf aux Palestiniens qui résistent et qui sont qualifiés de terroristes. Puisque le droit international prive les Palestiniens et de leurs droits et de leurs terres, je prends le droit de crier sur Al-Jaychen 3. Vive, vive le terrorisme palestinien. À demain.
Merci beaucoup Hamid Belkacem pour ce thème choisi aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Et je rappelle que vous avez choisi donc de parler d'une région chère à nos cœurs. Il s'agit là de la bande de Gaza en Palestine occupée, et à suivre dans l'instant santé signé Hassan Chemesh. Et nous allons parler donc des cancers ORL et également de la prise en charge des patients atteints du cancer en Algérie. Restez avec nous, il est 17h17 dans le 17-19 le MAC. الخضرة عند المية والخضرة خدني على الأرض الخضرة عند المية والخضرة عند النبعة والتينة والدواني الحزينة عند النبعة والتينة والدواني الحزينة والأرض تندم وتقول خدني على فلسطين خدني على فلسطين
بلادي يا أم النضال يلي أنجبتي أبطال خدني على الأرض المحتل على السهل وعلى التل خدني على الأرض المحتل على السهل وعلى التل والأرض تندم وتقول خدني على فلسطين
تواخذني خدني ع فلسطين كني يا طير لا تواخذني رجعني على بلادي عيني دهلي ولادي
رجعني على بلادي عيني دهلي ولادي خدني ع فلسطين خدني خدني ع فلسطين
خدني على فلسطين, خدني, un petit clin d'œil encore une fois, nous réitérons tout notre soutien indéfectible vis-à-vis du peuple palestinien, nos frères et sœurs palestiniens en Palestine occupée, qui combattent tous les jours que Dieu fait pour l'indépendance de la Palestine. 17h21 minutes, toujours en votre compagnie sur les ondes d'Alger Chien 3, le 17-19, le mag du dimanche au mercredi, en direct sur vos ondes à travers les 88.4, 89.2 FM, mais également les www.radioalgerie.dz et l'application Algerine Radio. Nous poursuivons notre programmation de ce 22 avril, de ce mardi 22 avril 2025 avec l'instant santé Snechmech.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Et je le disais en début de votre magazine, le ministère de la Santé organise aujourd'hui une journée d'évaluation de la prise en charge des patients atteints de cancer en Algérie. Sechemesh nous parle aujourd'hui des cancers ORL. Quels sont les facteurs de risque de ces cancers? Quel traitement pour ces cancers-là? Sechemesh a posé toutes ces questions à son invité. Écoutons-les.
Professeur Asmekerba, bonjour.
Bonjour, monsieur Hassan Chemesh.
Vous êtes chef de service d'oncologie au centre Pierre-Marie Curie. Professeur, nous allons aborder ensemble le cancer ORL. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer ORL, professeur?
Les cancers ORL sont aussi appelés cancers de la tête et du cou. En fait, c'est tous les cancers qui touchent la lèvre, la langue, la bouche, l'amygdale, le nez, les sinus, le pharynx, l'hypopharynx, le larynx, le nasopharynx ou le cavum, mais aussi les glandes salivaires.
Professeur, ce sont des cancers sévères?
Alors, ce sont des cancers, dans la majorité des cas, curables lorsqu'ils sont diagnostiqués de façon très précoce. Par contre, quand ils sont diagnostiqués à un stade avancé, c'est des cancers qui restent quand même mortels.
Quels sont les signes, quels sont les symptômes de ce type de cancer, professeur?
Alors, en général, lorsqu'on a un des symptômes que je vais citer qui dure de plus de 3 semaines, il faut aller consulter un spécialiste. Qu'il s'agisse d'une douleur au niveau de la langue, qu'il s'agisse d'aphtes ou taches blanches au niveau de la bouche, qu'il s'agisse d'un écoulement nasal unilatéral, c'est-à-dire d'un seul côté, ou bien un écoulement sanguin d'un seul côté, qu'il s'agisse d'une diminution de l'audition, qu'il s'agisse aussi d'une difficulté à avaler, ou bien d'une boule au niveau du cou qui dure plus de 3 semaines. Il faut aller consulter un spécialiste.
Professeur Asmekerboua, quels sont les facteurs de risque?
Alors, il y a 2 facteurs de risque certains, qui sont l'alcool et le tabac. Pour tous les cancers de la tête et du cou, les cancers ORL, sauf le cavum ou le nasopharynx, qui est un cancer spécifique au Maghreb et au sud-est asiatique. Sinon, on retrouve le tabac, l'alcool, on retrouve certains virus, tels que l'HPV, pour les cancers ORL, en particulier l'amygdale, et l'Epstein-Barr virus pour le cancer du cavum.
C'est un cancer qui touche toutes les tranches d'âge, professeur, dites-nous.
Alors, c'est un cancer qu'on voit à partir de l'âge de 40 ans, de plus de 40 ans, mais qui peut se voir chez des sujets de plus en plus jeunes. En tout cas, 90% sont curables au stade précoce et 2 cancers sur 3 sont malheureusement diagnostiqués à un stade avancé.
Professeur, maintenant pour les traitements. Quels sont les traitements qu'on donne à ce type de cancer?
Ce sont des cancers qui sont généralement radiocurables, c'est-à-dire qu'ils nécessitent la radiothérapie. Ils sont chimiosensibles, mais le traitement de référence reste la chirurgie, mis à part le cavum qu'on n'opère pas. Sinon, tout le reste, c'est la chirurgie qui constitue le gold standard, le traitement de base. Il peut être suivi soit par la radiothérapie, donc radiothérapie associée à la chimiothérapie, ou bien la chimiothérapie seule dans certains cas. Il existe aussi des innovations thérapeutiques. D'abord, la thérapie ciblée, ce sont des cancers donc, qui répondent à une certaine classe particulière de thérapie ciblée, qui sont les anti-EGFR, bien sûr, disponibles en Algérie. Et dernièrement, à l'immunothérapie, dans certains cas de rechute.
Professeur Asma Kerboa, pour terminer, un mot, adressez-vous donc à la population.
Alors, n'hésitez pas, quand vous avez un des symptômes que j'ai cités, n'hésitez pas à consulter votre dentiste ou votre médecin spécialiste ORL, justement pour éviter d'avoir un cancer à un stade avancé. Parce qu'un stade précoce, c'est un cancer curable.
Professeur Asma Kerboa, merci beaucoup.
C'est moi.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
l'invité du MAG.
L'invité du MAG à 17h31, monsieur Amine Boudfla, directeur de la culture et des arts de la Wilaya de Tlemcen. Monsieur Amine Boudfla, bonsoir.
Bonsoir à vous, bienvenue à Tlemcen.
Merci pour cet accueil et comme à l'accoutumée, quand on est à Tlemcen, on est très bien accueilli et on est très bien pris en charge, surtout sur le plan culinaire. Et Dieu seul sait que Tlemcen recèle un art culinaire juste magnifique. Pas que, et des sites touristiques, des sites et des monuments touristiques et également culturels. Tlemcen ou le musée à ciel ouvert, comment va Tlemcen, monsieur Amine Boudfla?
Elle va à merveille, surtout pour ce mois-ci, le mois du patrimoine. C'est l'un des meilleurs mois de Tlemcen, là où Tlemcen fête ses vestiges, fête son histoire et fête toutes ses décennies, toutes ses siècles de civilisation.
Justement, berceau des civilisations Tlemcen, Pomaria et les appellations diffèrent de cette très belle ville d'Algérie, entre autres musées à ciel ouvert. Tlemcen recèle un patrimoine matériel et immatériel commensurable, monsieur Amine Boudfla. Et justement, votre direction, la direction de la culture et des arts, veille à ce qu'elle protège, à ce qu'elle promouvoie ces vestiges-là.
Bien sûr, c'est l'un des notre rôle essentiel, c'est premièrement sauvegarder, deuxièmement promouvoir. D'accord. Le plus important, par exemple, si on va citer Tlemcen comme ville, cette semaine-là, le jeudi, nous allons faire passer le plan de sauvegarde de la médinette de Tlemcen pour le plan de sauvegarde. Rappelez aussi que on vient d'avoir la publication du plan de sauvegarde de la médinette de Nedroma. D'accord.
Très bien.
Donc c'est notre rôle. Notre rôle, c'est sauvegarder cette médina, l'aider à se développer, mais tout en gardant cette ère, tout en gardant cet esprit. L'esprit de cette ville qui est Tlemcen.
Excellent. Et vous avez évoqué Nedroma, cette très belle ville algérienne qui abrite l'une des plus vieilles mosquées d'Algérie.
Bien sûr, quand on parle des trois plus grandes villes almoravides d'Algérie, il y en a trois. Celle d'Alger, celle de Tlemcen et celle de Nedroma. En plus de la mosquée de Nedroma, juste à côté, nous avons le Hammam al-Bali. Si on peut dire, c'est l'un des rares, si c'est pas. Premièrement, le hammam, c'est le plus ancien, c'est un hammam almoravide, mais le plus important, l'un des rares hammams en Algérie qui fonctionne toujours avec le bois. D'accord? À l'état initial, il fonctionne toujours. D'ailleurs, à Nedroma, on l'appelle hammam al-Jal. Il n'y a que les hommes qui y vont.
Et justement, c'est un bain-mort, l'un des repères touristiques et culturels dans la ville de Ndroma, qui constitue l'une des villes de la wilaya de Tlemcen. La wilaya de Tlemcen, je le disais au risque de me répéter, recèle un patrimoine matériel et immatériel incommensurable. Et nous citons au passage, il y a lieu de rappeler, que la Shedda de Tlemcen, sa tenue féminine, a été classée patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Oui, à l'UNESCO en 2012, la Shedda, mais surtout le classement, quand on parle de Shedda, on parle surtout des métiers. Tous les métiers, on a classé et la Shedda, mais surtout les corps de métiers. Parce que pour faire la Shedda, on a plus d'une soixantaine de corps de métiers qui interviennent. Et c'est ça la spécificité de cette ville et de cette tenue. Cette tenue a une histoire, mais surtout, elle a plusieurs métiers. Et Tlemcen, elle était la capitale des métiers. Plusieurs métiers y étaient. Et on est là, dans le cadre du patrimoine immatériel, on est là, essayer de sauvegarder et de reprendre ces métiers. Ne serait-ce qu'avec nos collègues de la formation professionnelle, ils ont un institut d'artisanat, où on est en train de préparer des projets et surtout des supports de cours, des progressions de formation pour reprendre ces métiers-là.
Excellent. Toujours avec vous sur les ondes d'Alger Chantrois le 17-19, le MAG, monsieur Amine Boudfla, directeur de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen. Et également Tlemcen, c'est une série de musées, monsieur Amine Boudfla, des musées qui sont donc très bien pris en charge et aussi ouverts au grand public et qui reflètent aussi la richesse culturelle de la ville de Tlemcen.
Oui, Tlemcen, elle a nécessité d'avoir, si on peut dire, 3-4 musées. Premièrement, le musée d'art et d'histoire de Tlemcen. Dans ce musée-là, qu'est-ce qu'on va visiter? On va visiter l'histoire de Tlemcen à travers ses sites. Et depuis la préhistoire, on parlera de préhistoire, on parlera d'antiquité, de Tlemcen médiévale, ottomane et aussi la période coloniale et après. Donc, à travers ses sites, on va découvrir Tlemcen. D'accord, avec des objets archéologiques rares et surtout, surtout aussi des photos, des vidéos, des visites 360 degrés. Ok, oui. Mais il y a aussi l'autre musée, c'est le musée de la calligraphie islamique. Si là on parle de cette calligraphie, de l'histoire de la calligraphie, de l'histoire de nos études primaires, lorsqu'on étudiait le Coran, le Jama, donc comment ça se faisait, l'ouha et tout, tout ça existe. Ok, et on parlera des inscriptions calligraphiques dans local Afaïa, dans tout ce qu'on trouve archéologique. Donc ça c'est le deuxième musée. Le troisième musée c'est le musée de l'archéologie islamique. Oui. D'accord. Donc c'est l'ex-Médersa, l'ex-musée de Tlemcen. Là on découvre toute l'archéologie islamique. Oui. Et là on va découvrir les Idrissides, on va découvrir les Almoravides, les Almohades, les Yanides et la période ottomane. Aussi Tlemcen a le premier centre d'interprétation en Algérie qui s'appelle le centre d'interprétation du costume. Donc, dans ce musée-là, on va visiter le palais Yanide et la restauration des palais qui raconte l'histoire, surtout
appelé communément le palais del Mechouar, c'est ça.
Ah oui, c'est le palais del Mechouar. Donc, dans la citadelle del Mechouar, on a ce palais-là où on découvre l'architecture islamique, l'architecture Yanide. Mais aussi, nous avons une très très belle exposition de tous les costumes algériens. Donc, parce que le rôle de ce centre d'interprétation, en plus qu'il ait un caractère muséal, il travaille sur la recherche, sur le costume algérien.
Excellent, excellent. Monsieur Amin Boudfla, directeur de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen, en attendant de parler donc en prévision du mois du patrimoine, de ce que vous avez programmé et planifié pour célébrer ce mois-là. Tlemcen, c'est aussi ces vieilles mosquées, notamment celle de l'Blas, monsieur Amin Boudfla.
Oui, bien sûr. Si on va à l'Blas, on va trouver trois mosquées. On va trouver, premièrement, l'une des rares mosquées anciennes, c'est la mosquée almoravide qu'on appelle Jemal Kbir, la grande mosquée.
Mais c'est la mosquée Jemal Kbir,
Jemal Kbir, c'est une mosquée almoravide. Juste à côté, on va trouver la mosquée Sidi Ben Lahsen, qu'on nomme la perle de l'architecture islamique. D'accord? La perle de l'architecture islamique. C'est le lieu où il y a le musée de l'archéologie islamique. Juste à côté, on va trouver la mosquée Sidi Ibrahim Al-Smoudi, où on trouvera l'architecture islamique, mais surtout ottomane.
Oui.
Donc Tlemcen, le centre-ville, on trouvera plusieurs mosquées. C'est ça la spécificité de Tlemcen. Chaque quartier a ses mosquées. Plus que ça, si on va dans la ville de Tlemcen, chaque corps de métier avait sa mosquée. Oui. On peut revenir à Nedroma aussi. On dit Jem al-Qattarin. D'accord. C'est la mosquée des potiers. Chaque quartier avait sa mosquée. Chaque corps de métier avait sa mosquée. Ça, c'est une spécificité de cette wilaya.
Et justement, avait trouvé donc refuge à Tlemcen, cette terre bénite, j'ai envie de dire, Sidi Boumedine Abi Shaab El-Routi. Également, c'est aussi terre des savants, terre de ceux qui sont passés par là. Et ils ont trouvé refuge, ne serait-ce qu'aussi pour leur recherche et aussi la récitation du Saint-Coran. Tlemcen, c'est aussi berceau de ce patrimoine immatériel tel que la musique Haouzi. Et je rappelle, vous étiez commissaire de la dernière édition du Festival national culturel de la chanson Haouzi, qui a été un grand succès et s'est tenu au palais de l'imama Abdelkrim Dali, toujours à Tlemcen.
Toujours à Tlemcen. Donc, si on parle de la musique Haouzi, c'est la musique des abords, des quartiers, mais c'est la musique qui a, comment dirais-je, il y avait au début la musique andalouse, qu'on appelle la musique classique.
Oui.
Mais la musique Haouzi, premièrement, c'est la musique de Monsieur Tout-le-Monde, d'accord. Et deuxièmement, on utilise des paroles d'Erijan. D'accord. Et les premiers poètes, c'est des poètes tlemceniens. On parle de Mendesi jusqu'à ce qu'on arrive à Cheikh Tour Zahoné. Donc tous ces gens, ces poètes, c'est eux qui ont développé cette musique Haouzi, cette musique qui est sortie de Tlemcen et a parcouru toute l'Algérie et maintenant on la trouve dans nos pays voisins.
Monsieur Amin Boudfla, directeur de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen. Tlemcen compte plusieurs associations de musique andalouse et Haouzi.
Oui, Tlemcen, on est à Tlemcen.
Dans le but de sauvegarder.
Et quand je dis 8 associations à Tlemcen, je dis 8 écoles.
Oui.
Et là, je tire un chapeau à toutes ces associations. Pourquoi ? Parce que grâce à l'oralité, ces associations-là qui ont sauvegardé ce patrimoine, d'accord ? C'est eux qui ont sauvegardé. Vous savez, nous avons, cette année-là, nous avons fêté 100 ans de la création de la plus ancienne association, 120 ans de la création de la plus ancienne, qui est la SLAM, et 80 ans de sa section musicale. Donc la SLAM, c'est, elle a 120 ans. 120 ans de sauvegarde de ce patrimoine.
Oui.
C'est la, on dit, c'est la mère de toutes les associations de Tlemcen. Et elle est jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est en train de former, de sauvegarder. Il y a un peu plus tard que là, j'étais avec son président pour son programme. Ils ont un énorme programme. Et le plus important, c'est l'oralité et la formation. Et c'est ça le plus important pour nous, ces associations, c'est la formation.
Également, ce sont là des associations de théâtre et également de cinéma. Monsieur Amine Boudflin, nous citons les associations culturelles à l'image de l'association Mohamed Dib. À 17h41, toujours avec vous, le 17-19, le MAG est notre invité. L'invité du MAG, Monsieur Amine Boudflin, directeur de la culture et des arts de l'OILA de Tlemcen. Nous arrivons à un point bien précis pour parler donc du programme que vous avez tracé pour célébrer le le mois du patrimoine. J'y arrive, voilà.
Oui, pour cette année-là, lors du mois du patrimoine, le mois du patrimoine, il y a. Donc, on parle d'ILIA, on en parle de numérisation. Et la direction de la culture de Tlemcen, avec tous les établissements de Tlemcen, donc tout le secteur culturel, on a fait un grand programme chargé. D'ailleurs, lors de l'ouverture, on a travaillé sur la numérisation du patrimoine. Donc, nous allons, pour ce mois-ci, nous avons plusieurs expositions, plusieurs conférences, des journées d'études, mais surtout, nous avons des ateliers. Nous allons offrir des visites pour les sites et monuments. Et le plus important, cette numérisation, on va l'utiliser. Par exemple, ce qu'on a préparé pour cette année-là, on a préparé des visites virtuelles des musées, des visites virtuelles des sites et monuments. On a préparé aussi des expositions numériques sur les hologrammes, des expositions en 3D, des expositions en 360 avec des casques VR. Donc, on a utilisé l'outil numérique et l'IA pour valoriser ce patrimoine. Ces expositions-là vont sortir de Tlemcen. On va pas rester à Tlemcen. Premièrement, la première sortie, on a fait l'ouverture à la Maison de la Culture le 16, mais la première sortie, on a pris trois wilayas, la wilaya de Chlef, la wilaya de Tizi Ouzou et Touggourt. La deuxième sortie, nous allons sortir dans les lycées de la wilaya de Tlemcen et le CM. Donc nous allons travailler avec les établissements scolaires. C'est le plus important. On va leur faire visiter ce site à travers la numérisation. Pourquoi ? Parce que nous avons une génération native numérique.
2.0. Une génération 2.0.
C'est ça. Cette génération, elle est habituée au numérique. Donc, si on veut qu'elle s'intéresse au patrimoine, on va vers elle. On n'attend pas qu'elle vienne vers nous. On va vers elle. Comment ? En utilisant ces outils-là. Et vraiment, pour l'ouverture, c'est une réussite. D'ailleurs, pour cette semaine-là, il y a plein de jeunes qui viennent à la Maison de la Culture pour voir ces expositions. Ça les intéresse. Et c'est ça le plus important pour nous. S'ils sont intéressés par ce patrimoine, ils vont nous aider pour le sauvegarder.
Et ce qui est génial, encore une fois, vous avez venu de citer une phrase, c'est nous qui allons vers cette génération, une génération 2.0, pour, on va dire, la susciter à découvrir ou redécouvrir son patrimoine matériel, immatériel, surtout lorsqu'il s'agit de visites virtuelles. Et ça peut intéresser, ça ne peut qu'intéresser un public averti de 7 à 77 ans, Amine Boudflin.
Bien sûr, bien sûr. Je vous donne un exemple, par exemple, après avoir publié ces visites et tout, des fois, on subit quelques attaques sur nos pages. Donc, c'est ces jeunes-là qui nous aident. Ils sont en train de nous aider. Ils sont en train de défendre ce patrimoine. Et c'est ça le plus important. Comme a dit l'Arab ibn Hidi, c'est la même chose. On leur a donné ce patrimoine. Maintenant, c'est eux qui défendent ce patrimoine. Ils sont en train de défendre. Et c'est ça le plus important. Quand je vois cette génération 2.0 qui s'intéresse à ce patrimoine, qui le défend, qui vient vers nous, il va nous dire, vous ne faites rien pour ce patrimoine. C'est très bien pour nous. Donc, moi, j'ai pas peur pour ce patrimoine avec cette nouvelle génération. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes allés vers elle. Et ce qu'on va faire, je cite autre chose, nous allons aussi vers les villes, d'autres villes de Tlemcen, jusqu'au Houdout. On a été jusqu'à dans un quartier à Bni Boussaïd.
D'accord. Oui.
Bien sûr, on a été vers eux, leur expliquer, les inviter, et on les a invités avec nos bus pour venir visiter ces musées. Mais surtout, lorsqu'on est allé vers eux, on leur a montré avec des visites les sites, leurs sites. C'est ça le plus important. Donc, ce qu'ils en veulent, dans leur ville, il y a des sites historiques, ils sont vraiment intéressés.
Et justement, c'est la période la plus, j'ai envie de dire, c'est la meilleure des périodes pour visiter Tlemcen en plein printemps et profiter aussi de ses paysages naturels. Tlemcen, de Bab El Assad, de Sidi Boujnan, de l'Arabie Ben Mehdi, jusqu'à, allons dire, jusqu'à Al-Qudia, jusqu'à Hnaïa.
N'oubliez pas Ibn Sunus.
Ibn Sunus aussi.
Aussi, Ibn Sunus, on a été à Ouled Mimoun. Donc tout y est, même à Sidi Jilali, on a trouvé des sites. De nouveaux sites qu'on a découverts, donc on est en train d'y travailler avec l'université.
Oui.
On est en train de préparer les classements de nouveaux sites.
Excellent. Monsieur Amin Boudfla, directeur de la culture et des arts de Tlemcen, merci beaucoup. Vous étiez notre invité. Un dernier mot, je ne sais pas, un appel au public pour découvrir Tlemcen. Oui.
Bien sûr, c'est moi qui vous remercie et à travers vous, je fais un appel au public que Tlemcen et toutes les portes de Tlemcen sont ouvertes pour découvrir ce patrimoine et venir partager avec nous cette fête. Parce que pour nous, le mois du patrimoine, c'est toute une fête.
Toute une fête, fêter le patrimoine et aussi, si vous voulez découvrir le programme tracé à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine à Tlemcen, découvrez ou aimez la page de la direction de la culture et des arts de Tlemcen sur Facebook notamment.
Merci à vous.
Merci à vous à 17h46. C'était là donc Amin Boudoufla, directeur de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen, qui est revenu sur les magnifiques vestiges que recèle la ville des Ziyanides et également qui a évoqué le programme tracé pour célébrer le mois du patrimoine à 17h47 sur les ondes d'Alger chaîne 3. Et à suivre dans l'actualité, Selim Brahimi, qui est l'envoyé spécial de la chaîne 3 à Osaka, où se tient l'exposition universelle 2025, où l'Algérie y prend part avec un pavillon qui réunit patrimoine ancestral, et on l'évoquait à l'instant, avec les nouvelles technologies. Mais en attendant, musique. Et un petit clin d'œil à toute la famille artistique de Tlemcen, Kenny Bourazi, alhamdoulilah, et restez avec nous.
لحقنا جبتا مع الصباح مهني بهنايا الحمد ربنا على الحنين لحنا نشكر وبالحمد ربنا على الحنين لحنا أطلب في الغفران من الله يغفرني خطايا حن شواقي دمعتي تسري من الجفان حن شواقي دمعتي تسري من الجفان الله أكبر ليه لحمد وفاد وعايا رواني من ما بيرز نزم وانا عطشان رواني من ما بيرز نزم وانا عطشان
Sans transition aucune de Tlemcen à Osaka, au Japon, le pays du soleil levant où se tient l'exposition, je le disais, Universelle 2025 d'Osaka, où l'Algérie prend part à cette édition, avec un pavillon qui réunit le patrimoine algérien dans toute sa splendeur, sa richesse matérielle et immatérielle ancestrale, avec de nouvelles technologies. On parlait avec notre invité à l'instant, Monsieur Emile Boudefla, directeur de la culture et des arts de Tlemcen, sur la numérisation pour promouvoir la culture d'une manière générale, et on avait évoqué, je rappelle à ceux et celles qui viennent d'eux donc, de se brancher, on avait parlé des vestiges que recèle le Tlemcen et aussi le programme de la promotion du mois du patrimoine. Depuis Osaka, l'envoyé spécial d'Alger Chat 3, Selim Brahimi, pour l'Expo 2025.
Bonjour Monsieur Nordine Bougendoura, vous êtes le commissaire du pavillon Algérie dans l'exposition universelle d'Osaka 2025. L'exposition universelle d'Osaka au Japon est un des plus grands rendez-vous culturels de la planète. L'Algérie y prend part avec un énorme pavillon. Que peut-on découvrir dans ce pavillon ?
Bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Bien que l'exposition se tienne au Japon, l'exposition regroupe des participants issus de plus de 170 pays et différentes organisations et institutions internationales. Le pavillon algérien occupe un espace de 440 mètres carrés riche en contenu patrimonial et différentes thématiques que le visiteur découvre en visitant l'espace. D'un autre côté, un programme riche sera présenté se basant sur les événements culturels, scientifiques et économiques, ainsi que les différentes semaines thématiques réparties sur les 6 mois de l'exposition.
La culture algérienne est très riche. Quelles facettes avez-vous choisi d'exposer dans le pavillon algérien ? Paris.
Expo
2025 est un événement d'envergure mondiale. Il porte un aspect fortement culturel. Cela représente une excellente occasion pour promouvoir le riche patrimoine algérien, qu'il soit matériel et immatériel. Toutes ces facettes de la culture ancestrale algérienne est exposée au pavillon Algérie. Elle témoigne de l'ancrage historique et civilisationnel de la culture algérienne. Le pavillon algérien dispose également d'une partie scientifique. Cela est lié à la thématique générale de l'exposition, qui est « Progrès et harmonie pour l'humanité ». Enfin, cet événement est de teneur politique et diplomatique, où chaque pays promeut son image, celle de son économie à travers des rencontres et tout ce qui conforte l'investissement et le partenariat.
L'exposition universelle d'Osaka rime avec nouvelles technologies de la culture. Avez-vous intégré la high-tech dans le pavillon et de quelle manière?
Qu'il est à noter que le visiteur du pavillon algérien est guidé à l'aide de supports audio-vidéo numériques à travers la jeune Nour, qui est une figure créée avec l'intelligence artificielle. Elle fait découvrir l'Algérie aux visiteurs en les accompagnant sur les écrans de projection, aboutissant sur un écran interactif permettant aux visiteurs de voter sur le secteur qu'ils jugent intéressant.
Parlez-nous des différentes parties du pavillon Algérie.
Le pavillon Algérie a été conçu selon une inspiration visant à démontrer que l'Algérie est une puissance continentale fière de sa glorieuse histoire. Elle représente un des berceaux de l'humanité et grâce à ses immenses paysages naturels qui représentent un trésor touristique. On peut également découvrir tous les efforts consentis par l'Algérie pour assurer les objectifs du développement durable des Nations Unies.
Vous êtes en ce moment au Japon, à Osaka. Comment ont réagi les visiteurs japonais et internationaux à l'espace Algérie?
Nous avons constaté durant les premiers jours depuis l'ouverture avoir reçu plusieurs milliers de visiteurs intéressés par le pavillon algérien. Nous avons réuni leurs impressions qui étaient emplies d'intérêt.
Et c'est un voyage comme un autre. Je rappelle, on a été du côté du pays du soleil levant avec Selim Brahimi, où se tient l'exposition universelle 2025 Osaka, où l'Algérie prend part avec un pavillon qui réunit patrimoine ancestral. Et Dieu seul sait que notre patrimoine matériel et immatériel est si riche avec de nouvelles technologies. Restez avec nous, il est 17h bientôt 58 minutes sur les ondes d'Alger Chien 3. À suivre dans moins de 2 minutes, Sofiane Saouli, le sommaire de l'édition du soir. Dans la deuxième partie, ça sera avec Ali Hmouch, l'actualité sportive, toute est l'actualité sportive. Et un jour, un correspondant, nous irons du côté de Chlef avec Lima Rahmani pour parler de la cochenille qui s'attaque à la figue de Barbarie, et aussi le dispositif qui a été donc pris par la direction des services agricoles pour faire face à ce phénomène-là. Restez avec nous. Le dernier top indiqué 18h sur les ondes d'Alger Chien 3. Et à 18h dans le 17-19, le Mag Sofiane Saouli pour le sommaire de l'édition du soir. Sofiane Saouli, bonsoir.
Bonsoir à tous. Au sommaire, la coopération algéro-rwandaise dans le domaine militaire. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengreha, a reçu aujourd'hui le chef d'état-major rwandais de la Défense, le général d'armée Mubarak Munganga. Les opportunités de coopération bilatérale, le renforcement de la coordination entre les deux pays, les défis sécuritaires également évoqués entre les deux responsables. L'Algérie, justement, qui accueille aujourd'hui une rencontre de l'Association des producteurs africains de pétrole. Il s'agit notamment de réaffirmer la disponibilité de l'Algérie à échanger son expérience dans le domaine avec les autres pays africains. L'actualité, c'est également cette rencontre régionale du ministre de la Communication, deuxième du genre. Elle se tient à Constantine. Le ministre de la Communication, Mohamed Mezial, qui a mis l'accent sur la formation l'implication des journalistes pour faire face aux défis, notamment là, les défis de l'heure, les menaces qui pèsent sur le pays. L'ANI se discute aujourd'hui des ingérences étrangères dans le processus électoraux. Une centaine de pays touchés par les tentatives d'ingérence étrangère. Le dispositif de l'ANI se renforce. Projet de loi sur les procédures pénales, il est en débat à l'Assemblée populaire nationale. Plusieurs interventions, à commencer par celle du ministre de la Justice, qui a précisé le nombre de mécanismes et le renforcement des procédures, mais aussi la facilitation des procédures et des poursuites judiciaires au niveau des parquets. Les ministres de l'Industrie et de la Formation sur le terrain aujourd'hui, dans la wilaya de Bouila, il est question notamment de formation dans le domaine industriel. L'actualité à l'étranger est marquée par cette interdiction de l'entité sioniste de l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Elle conditionne son entrée par la signature forcée par du mouvement de résistance à Hamas d'un accord avec l'entité sioniste selon ses propres règles. Décédé hier, l'Abadi inhumé ce soir à Tamen Rasset, des hommages lui sont rendus par le monde artistique national. Et puis en sport, on évoque les violences dans les stades. La Fédération algérienne de football, à travers son président, a réuni les clubs de Ligue 1, les clubs professionnels, pour discuter de ce phénomène. On évoquera également la conférence de presse du directeur technique national aujourd'hui.
À 18h03, c'était la Sofiane Soli pour le sommaire de l'édition du soir. Merci Sofiane et à tout à l'heure. Et l'on continue la deuxième heure, on entame la deuxième heure de votre magazine le 17-19 Le Mag. À suivre Al Hamouch pour l'actualité sportive de ce mardi 22 avril 2025. En attendant, musique. Daft Punk, Lose Yourself to Dance sur les ondes d'Alger Chien 3.
Lose yourself to dance. I know you don't.
Self to Dance, les Daft Punk sur Alge Chintran dans le 17-19 Le Mag à 18h09. Au sommaire de votre 17-19 Le Mag, rappelons que le monde de la culture est endeuillé avec la disparition de la diva du chant Tindi Badilella qui nous a quitté hier à l'âge de 88 ans. Aujourd'hui a été donc sera inhumée ce soir à Tamil Raset où elle a vu le jour en 1937. La Badilella, c'est un leg musical incommensurable derrière elle, des titres à succès de la musique Tindi, elle qui était surnommée la mère spirituelle des Touaregs. Et également, nous irons du côté de Chlef avec un jour un correspondant, Yerim Rahmani, pour parler donc des journées de sensibilisation, de formation qui viennent d'être lancées dans cette wilaya. Et cette action qui fait suite à l'apparition de la chenille qui affecte la figue de Barbarie. Et comme je l'ai annoncé, à 18h10, c'est l'heure de retrouver Ali Hamouche et toute l'actualité sport. Ali Hamouche, bonsoir.
Bonsoir Mounir.
Ça va?
Ça va, tranquille.
Alors les Hamouches, comme à l'accoutumée, toujours souriant, toujours de bonne humeur et avec à la clé de l'actualité sportive.
Et Mounir, on va commencer aujourd'hui
oui,
avec
du volleyball.
Non.
Ah bah oui.
Non, pas pour cette fois-ci. Donc par cette réunion importante qui va se dérouler ou qui se déroule en ce moment même au niveau du siège de la Fédération algérienne de football entre le président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Walid Sadi, qui a convoqué les présidents de clubs de Ligue 1 professionnelle, donc afin de revenir sur les derniers événements qui ont secoué le football national, qui a été marqué, on va dire, par de regrettables incidents sur certains matchs de Ligue 1. Donc, pour nous en parler, notre journaliste qui est sur place, Nassima Djaout. Bonsoir Nassima.
Bonsoir Ali, effectivement une réunion importante qui a commencé à 16h, elle est en cours d'ailleurs, il faut rappeler que 16 présidents des 16 clubs de la Ligue 1 sont présents à cette réunion, le président de la Ligue de football professionnel est également présent, Mohamed Amin Meslouk, des représentants de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie, du ministère de la Justice, de la Communication et de l'Intérieur, au vu de l'importance de cette réunion. Je rappelle, comme vous l'avez si bien dit, Ali Hamouche, dans un contexte marqué par la montée inquiétante de violence dans nos stades, une escalade également préoccupante de la violence, mais aussi des discours haineux incitant à la haine dans nos stades, et plusieurs mesures seront attendues lors de cette réunion pour tenter d'éradiquer le phénomène de la violence dans nos stades. Et une mesure est envisageable, peut-être, on va le savoir tout à l'heure, à la fin de la réunion, l'interdiction de déplacement des supporters jusqu'à la fin de la saison. C'est envisageable, je ne dis pas que ce sera la mesure prise, mais on va attendre, on va patienter. Je veux juste dire que Walid Sadi, lors de cette réunion, selon nos informations, n'a pas été tendre avec les présidents de clubs lors de son préambule. Il faudra patienter, attendre et connaître les issues de cette réunion ô combien importante du fait de la présence, je le rappelle, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, mais aussi de la communication.
Merci Nassima, donc on va vous retrouver dans notre prochaine édition pour nous tenir au courant de la teneur de cette réunion très importante. On rappellera entre le président de la Fédération algérienne de football, monsieur Walid Sadi, et l'ensemble des présidents de clubs de première division de Ligue 1 professionnelle.
Et à 18h30, toujours avec vous Ali Hamouche, après cette réunion importante donc qui a été présidée par le président de la FAF, monsieur Walid Sadi. Nous allons passer à la conférence de presse animée par Ali Moussaire, le nouveau DTN, ou le directeur technique du 11 national, qui s'est tenu cette conférence de presse du côté du stade de Nelson Mandela aujourd'hui.
Absolument, Mounir. Donc, le nouveau directeur technique national de la Fédération algérienne de football, M. Ali Moussaire, donc, qui a animé ce matin une conférence de presse au niveau du Nelson Mandela Stadium, une conférence de presse durant laquelle il a été appelé à dévoiler le projet qu'il compte mettre sur place. Moussaire a expliqué qu'il allait plutôt se baser sur trois grands axes dans son plan de travail. Il le dit à Mamar Djibour qui a assisté à la conférence de presse.
La priorité aujourd'hui, c'est la composition de la direction technique nationale. On souhaite mettre sur pied une équipe de façon à ce que je puisse prendre les meilleures décisions. Ensuite, je vais vous exposer, alors de façon assez succincte quand même, le projet de la direction technique nationale pour les 4 années à venir. Notre action, elle va s'orienter sur 3 axes prioritaires. Le premier axe, c'est celui qui concerne le développement des pratiques et la structuration des clubs. Le second dossier, c'est la formation de l'encadrement. C'est une obligation pour les fédérations de former ces cadres. Le troisième dossier concerne la performance du football algérien. Les choses sont claires, on parle du haut niveau. Je vous l'ai dit, ça concerne 1% de nos licenciés à peu près. Sur ce dossier-là, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il y a déjà une activité de prospection et de détection qui est mise en œuvre par les collègues des Oulayas et des directions régionales. On va continuer ce travail et on va l'amplifier puisque c'est une activité qui doit se faire sans tenir compte des échéances internationales.
Et c'était là donc Ali Moussaire, le nouveau DTN, au micro de Mamar Djibour ce matin lors de la conférence de presse à l'Ermouche.
Absolument, Mounir, et on rappellera que Ali Moussaire avait été nommé à la tête de la direction technique nationale en décembre dernier en remplacement de Amer Mensoul. Ce dernier avait demandé à être déchargé de sa mission et le départ de Mensoul de la DTN intervenait quelques jours après l'échec concédé par les sélections nationales masculines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans à se qualifier pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations, donc dans ces deux catégories. Et par ailleurs, le directeur technique national, M. Ali Moussaire, a annoncé l'arrivée d'un ex-international, Karim Ziani, donc qui a fait partie de l'épopée d'Oum Dermane avec cette qualification.
De magnifiques souvenirs.
Absolument. De cette qualification pour le mondial de 2010. Et ce match, ce fameux match face à l'Égypte, Karim Ziani qui avait rejoint très jeune la sélection nationale au niveau des jeunes catégories avant d'intégrer l'équipe senior. Donc Karim Ziani qui intégrera l'organigramme de la DTN sans pour autant préciser la tâche qui lui sera attribuée, l'organigramme de la DTN qui est toujours en cours d'élaboration.
Excellent. Et là, 18h16 avec vous, Alain Mouche, on arrive au volleyball. On allait commencer avec.
Plaisir.
Et on parle de championnat d'Afrique de volleyball où les deux clubs représentant l'Algérie, à savoir Castel Tnit, l'Abed de Betna, et Wydad de Tlemcen, qui enregistrent de nouvelles victoires, Alain Mouche.
Absolument, Mounir. Donc, on va commencer par Castel Tnit, l'Abed, qui s'est imposé aujourd'hui devant la formation congolaise de la garde républicaine de volleyball sur le score de 3-7-1. En match comptant pour la 3e journée du groupe B du championnat d'Afrique des clubs masculins 2025, 25-13, 25-23, 25-11, puis 25-19. Donc ça s'est joué aujourd'hui, on rappellera, c'est à Misrata en Libye.
En Libye, oui.
On rappellera que c'est la deuxième victoire des volleyeurs de Tnit Lab dans ce tournoi après celui obtenu dimanche devant la formation ougandaise de Nemo Stars, VC sur le score de 3. 3-7-2 contre une défaite face au Kenyan général Service Unit SC. Et sur cette victoire, on va écouter justement l'entraîneur de Casteltenit Abed, Azouz Bouzid, contacté par Nessima Djaout.
En ce qui concerne le championnat d'Afrique, on a bien entamé la première journée. On a gagné 3-2. La deuxième journée, on a joué contre une bonne équipe du Kenya. On a perdu 3-1. Peut-être c'était l'influence du facteur physique. On a dépassé ce match et on a bien entamé le troisième match contre une équipe congolaise moyenne. On a pu faire participer tous nos jeunes pour gagner un peu d'expérience. On va se reposer un peu et on va essayer de préparer le match contre l'Ahli.
Et lors de la quatrième journée prévue, mercredi, Casteltenit Abed défiera le tenant du titre, le géant, c'est l'Ahli d'Égypte, avant de boucler la phase de poule contre le FUS. Ça sera jeudi. L'autre représentant algérien dans ce championnat d'Afrique, c'est le Wydad de Tlemcen, qui s'est également imposé aujourd'hui devant une formation congolaise, à savoir le Volley Club Espoir, sur le score sans appel de 3-7-0, 25-17, 25-21, 25-23 sur cette victoire. On va écouter son président, Karim Bouabdallah, contacté également par Nessima Djaout.
L'objectif, les fixina, galaux de sur place, c'est deuxième fil à poule. Voilà, tout simplement. Bach n'a pas de foutre le huitième final, donc par la même occasion, déjà, on a qualifié, quel est le match de l'homme, on a qualifié le huitième de finale. Ou qu'on a besoin d'un terreau avec le troisième de la poule D. Ou qu'on a besoin d'un chou le quart final, il a rebut au Fakna, bien sûr, et on peut négocier. Maintenant, pour le match de l'homme, c'est vrai, après la défaite de l'Barah, même quelques joueurs, parce que c'est à l'Algérien, ou là, les Algériens, mais je trouve que c'est tout à fait logique. Est normal des réactions d'un Algérien, voilà, des grintas, c'est normal. Match ça lui ont dit qui me fait mal, donc j'ai rawah qui me fait mal.
Donc c'était le président du Wydad de Tlemcen, Karim Bouabdallah. Il a été contacté par Nessima Djaout. On rappellera qu'à l'issue de la phase de poule, les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale prévus le 26 avril. On rappellera, ça se passe à Misrata, en Libye.
Non, en Libye. Et après le volleyball et aussi les victoires enregistrées par les clubs représentants de l'Algérie dans ce championnat d'Afrique de volleyball, place au basketball avec la super division messieurs et la 23e journée à El Hmouch.
Absolument, Mounir, vous êtes à la page donc dans tous les sports. Donc la 23e journée qui a débuté à 14h déjà. Donc des matchs qui se sont joués avec cette victoire, précieuse victoire du CR Benissa, 63-59 face au CS Tlemcen. Une victoire qui permet au CR Benissa de se hisser à la 4e place avec 37 points. En attendant bien évidemment les autres rencontres du jour, le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé à l'extérieur 84-64 face à l'OS Bojbouarelidj, le Mouloudia d'Alger qui se replace à la 2e position en compagnie du Wydad de Boufarik. En attendant la rencontre du Wydad de Boufarik, ça sera à 17h contre le CSC Gate Constantine, 5e au classement. Et enfin Moustakbel Ouled Chbel qui s'est imposé 82 face à Betna 41. Donc voilà les trois matchs qui se sont joués jusqu'à présent. Et à 17h en ce moment même se déroulent des rencontres. Ruiba CB qui affronte Talat Dralia et ce choc entre l'USM Bleda et le NB Staoli, c'est une rencontre qui se joue à huis clos. Et on rappelle également, on parlait de cette rencontre entre le CS et Gate Constantine et lui d'aide de Boufarik. Et à 18h30, dans moins de 10 minutes, démarrera cette rencontre entre le Nasser Hussein Day et l'USM Alger, une rencontre qui se jouera également à huis clos.
De belles affiches pour les amoureux du basketball et puis retour au football pour parler des championnats à l'étranger, allez, mouche.
Et par lequel on va commencer?
Anglais?
Anglais.
Allez, soyons fous.
Bonne réponse. Donc pour aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul match au programme. Donc en ouverture de la 34e journée avec Manchester City, 5e de la Premier League, donc qui affrontera Aston Villa. Ça sera à partir de 20h. Et en France, en Ligue 1, Nantes qui accueillera le leader, le Paris Saint-Germain, qui s'est déjà assuré du titre de champion de France. Ça sera à partir de 19h45. Et en Espagne, en ce moment même, se joue une rencontre entre Valence et l'Espagnol de Barcelone. Les deux équipes sont à égalité. 0 partout après 20 minutes de jeu. Et en soirée, à 20h30, le leader, le FC Barcelone, qui accueillera Mallorca. On rappellera que c'est pour le compte de la 33e journée. Mmh. Et pour les amateurs du championnat d'Arabie Saoudite, un match qui se déroule en ce moment même et qui intéresse donc les Algériens avec notre international, notre capitaine d'équipe, donc Riyad Mahrez, donc dans le club l'Ahli qui affronte El Wihda en ce moment même. Et les deux équipes, plutôt c'est l'Ahli qui mène 1-0 à la mi-temps. Et dans l'autre rencontre, Al-Nassr de Riyad avec Ronaldo, donc à égalité, 1-partout après 55 minutes de jeu face à la formation de Damak FC.
Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Ali Hamouche pour toutes ces précisions et ces informations, l'actualité sport.
Merci.
Et on
à
se
vous.
Dit à très bientôt.
Voilà, à la semaine prochaine.
C'était là donc Ali Hamouche à 20h23, je sais pas.
Vous êtes un avance sur votre
en avance à 18h23 minutes sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Restez avec nous à suivre un jour un correspondant. La page culturelle est également rétro hit, mais en attendant, musique et rien que pour vous Ali Hamouche, cette belle pause musicale. Et c'est Miguel Mix, rien que pour vous, allez.
Merci.
Merci.
Tell me what you really want.
18h29 minutes sur les ondes d'Alger Chien 3 et vous écoutez toujours le 17-19 Le Mag pour ce mardi 22 avril. Et c'était là, été à mes côtés, Aléa Mouche pour l'actualité sportive. À suivre un jour un correspondant. Et un jour, un correspondant depuis Chlef aujourd'hui avec Rima Rahmani. Chlef où se tient des journées de sensibilisation et de formation qui viennent d'être lancées dans cette wilaya. Cette action fait suite à l'apparition, je le disais, de la cochenille qui affectait la figue de Barbarie. Retour sur ces journées de sensibilisation avec Rima Rahmani dans Un jour, un correspondant.
La figue de Barbarie, fruit réputé pour ses vertus nutritives et cosmétiques, polarise ces dernières années l'intérêt des investisseurs et agriculteurs qui ont réussi à développer de nouvelles activités autour de ce fruit, notamment l'huile extraite de ses pépins. Malheureusement, la culture de la figue de Barbarie risque d'être freinée en raison d'une pathologie causée par la cochenille. Ces ravageurs sont des insectes suceurs qui provoquent une malformation ainsi qu'un dessèchement de la plante et par conséquent une perte de la récolte et des dégâts énormes. Dans notre pays, la première apparition de cet insecte a été détectée en 2021 à Tlemcen, mais cette année, plus exactement le mois de mars dernier, l'apparition de cet insecte ravageur dans pas moins de 3 wilayas, à savoir Mostaganem, Redizan et Chlef, où plusieurs foyers ont été identifiés à la Daïra d'Al-Marsa, nous dit Mehdi Kouadri, directeur des services agricoles.
Il y a eu un premier constat, une déclaration de cette maladie au niveau de la wilaya de Chlef. Alors on a commencé par bien sûr, une campagne de sensibilisation pour éviter cette contamination. Et le seul remède actuellement qu'on utilise, c'est bien la destruction et l'enfouissement de la plante.
Et il faut dire qu'après une série de rencontres et une caravane de formation et sensibilisation est programmée, nous dit le DSA de Chlef.
Cette caravane compte tous les secteurs qui peuvent intervenir, notamment l'intérieur, parce qu'ils sont responsables. Surtout, c'est par rapport à la destruction et l'enfouissement. Vu que nos services ne disposent pas de matériel qui vont nous accompagner, les forêts, la protection civile, l'environnement, même on a invité l'université, c'est-à-dire on a fait appel à des spécialistes, des professeurs spécialistes, pourquoi pas des étudiants, pour programmer un travail là-dessus.
Selon les spécialistes, la cochenille, ce ravageur silencieux devenu un fléau mondial qui menace les cactus, est le seul moyen pour éradiquer ce minuscule parasite. Une solution qui a fait ses preuves consiste à faire appel à des coccinelles prédatrices en provenance du Mexique, se nourrissant uniquement de cochenille. Chlef, Rima Rahmani, Al-Jashan 3.
Merci beaucoup. C'était donc Rima Rahmani depuis Chlef qui, je rappelle, est revenu sur les journées de sensibilisation, notamment avec des caravanes qui sillonnent les différentes communes de la wilaya de Chlef et qui fait suite à l'apparition, je rappelle, de la cochenille ou la cochenille qui affecte la figue de Barbarie. Ce fruit très apprécié, surtout en période d'été, est riche en vitamines et en eau. 18h, bientôt 33 minutes à suivre. Je rappelle que nous allons revenir sur un hommage suite à la disparition de la grande diva de la chanson Tindi Tergi, Lela Badi, qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans, et qui sera donc qui a été inhumée aujourd'hui en fin d'après-midi et à Taman Rasset, où elle a vu le jour en 1937. En attendant, je vous laisse avec cette très belle note musicale. C'est donc un cover. Il est signé le groupe Garage Band et la belle voix de Aïda Arwa Arwa.
Arwa, arwa, la ta seyye wa ta zariya.
Classique du répertoire de la chanson, à mesure chanson kabyle de la chanson algérienne, avec un peps et un côté pétillant avec la belle voix de Aïda du groupe GarageBand sur les ondes d'Alger Chien 3. Et évoquant la scène culturelle et artistique algérienne, la scène culturelle est endeuillée avec la disparition, je le disais, de la diva de la chanson Tindi Tergui, elle qu'on l'a surnommée la mère spirituelle des Touaregs. Elle a côtoyé, étant jeune, à l'âge de 10 ans, lorsqu'elle avait embrassé la carrière musicale et culturelle aux côtés d'une formation musicale féminine. Devenue par la suite une grande dame de la musique algérienne, avec ses pas de danse, avec sa belle voix rocailleuse et tendre à la fois, et douce, pardon, qui évoque la tendresse de la femme Tergui. Elle, c'est donc Lelabadi, disparue hier à l'âge de 88 ans. Elle avait donc représenté la scène culturelle algérienne et artistique à travers le monde, à travers plusieurs capitales du monde. Aujourd'hui, en nous quittant, à l'âge de 88 ans, elle laisse un legs musical incommensurable. Retour sur la carrière de cette grande dame, la disparue, la défunte, Lelabadi, dont cet hommage signé Fatah Boumadir.
Originaire du sud du pays, plus précisément de Tamanrasset, Rasset, la diva Badi Lala était l'une des rares voix féminines à incarner et transmettre le chant Tindi, un art musical traditionnel touareg porté par les femmes et rythmé par le tambour. Badi Lala a su faire connaître ce patrimoine au-delà du désert en montant sur de nombreuses scènes nationales et internationales. En 2023, un vibrant hommage lui a été rendu au Théâtre National Algérien. Nous l'avons rencontrée, elle était tout émue et reconnaissante. Écoutons-la.
نهار هادي شكرها ياسر من واسر راني شكرها ناسها فرحانين بيا زين زين كيلي صغار كيلي كبار وانا نشكر معاهم في اكثر من شكروني انا وراني شاكركم شاكر اصحاب التكريم هادي اللي كرموني فكروا فيا جابوني سكنوني كرموني بالزين قعدوا معايا بالزين ما كان حاجه اللي تخصني اراني مرحبا بكم يطول في عمركم الله ينزل لكم البركه في الدنيا وفي الاخره اراني والله الا نشكر هاد الناس نشكركم بزاف انا نغني بكري واش قبيل ما سجلت انا مدام في الغمري 20 سنه وانا غنيت.
Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage culturel algérien. Sa voix et son engagement pour la sauvegarde du Tindi resteront une référence pour les générations futures. Puissiez-vous reposer en paix l'artiste.
Et je rappelle que la défunte a été inhumée aujourd'hui à Tamanrasset, sa ville natale. Et je rappelle qu'hier, en fin d'après-midi, le ministre de la Culture et des Arts, Zoher Belalou, avait présenté ses sincères condoléances à la famille artistique et à la famille de la défunte. La Badi qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi radian sur les ondes d'Alger Chien 3, il est 18h41.
الناس انت رواية كلك احساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك احساس Yeah.
Avec ces belles sonorités, nous réitérons aussi encore une fois nos salutations à ceux et celles qui se branchent à Alger Chien 3, notamment à travers les www.radioalgerie.dz. Oui, j'y arrive. Plus que 15 minutes à passer ensemble dans le 17-19, le MAG de ce mardi 22 avril 2025. Et place tout de suite à Tarek Falcoun et Retro Hits dans le 17-19, le MAG.
Retro Hits. Retro Hits. Avec Tarek Falcoun.
Madonna, la reine de la pop music, brille avec Like a Prayer. Le 22 avril 1989, Madonna s'empare du Billboard Hot 100 avec un titre audacieux et révolutionnaire, Like a Prayer. Un morceau qui grimpe directement à la première place et y reste pendant 3 semaines. Mélangeant pop, gospel et influence religieuse, Like a Prayer marque un tournant dans la carrière de Madonna avec un hymne à la fois spirituel et provocateur accompagné d'une vidéo mémorable. Le mélange de chœurs religieux, de guitare funky et du refrain accrocheur a fait de ce titre un véritable phénomène culturel où Madonna s'affirme une fois de plus comme une artiste audacieuse et avant-gardiste. Like a Prayer n'a pas seulement été un succès commercial, mais aussi un symbole de la puissance de la musique pop dans les années 80, en définissant les limites artistiques et personnelles de Madonna. Laissez-vous alors vibrer avec l'énergie et la profondeur de ce classique de la pop. Voici Madonna avec Like a Prayer.
Oh.
Et des moments de nostalgie signés Tadar Farkoun dans Retro Hits dans le 17-19, le mag. Voilà, nous arrivons à la fin de votre magazine de ce mardi 22 avril 2025. Un grand merci à l'ensemble des journalistes et chroniqueurs qui ont contribué à la réalisation de ce magazine. Été à la régie d'antenne Mariam Djilali, à la console technique Adlan Bag et à la réalisation de votre magazine le 17-19, Ali Laouissi. Rendez-vous demain à partir de 17h05 sur les ondes d'Alger Chien 3. Et je rappelle que à 19h très exactement, vous aurez rendez-vous avec Sofiane Saouli pour l'édition du soir et toute l'actualité nationale et internationale. L'édition de 19h. Merci. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous suivre sur les différentes fréquences d'Alger Chien 3. Également les www.radiojury.dz et également l'application Algerian Radio. En attendant de vous retrouver en bonne santé, j'espère demain à partir de 17h05. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment, et soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.